Carman et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 18 juin 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Bon, alors une semaine mouvementée vers la fin de la semaine passée. Qu'est-ce qui a retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Ben, je pense que l'événement qui a retenu l'attention des marchés, ça a été l'attaque d'Israël sur l'Iran, là, jeudi dernier, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a vraiment eu un impact là, important sur les marchés le lendemain. Par contre, le surlendemain, c'était comme tout était passé, on avait un peu passé à d'autres choses. Donc, ce qui fait qu'on a des marchés un peu en deux temps. Le Canada a relativement bien fait, 0,4%. On a une pondération plus élevée en énergie au Canada, donc c'est pas étranger. Là, quand il y a un peu de conflit au Moyen-Orient, ben, le pétrole tend à monter, puis notre indice est un peu favorisé. On a une pondération élevée dans les métaux aussi. Ça aussi, c'était des secteurs qui ont été un peu favorisés, entre autres l'or. Du côté américain, un peu plus modeste, on parle de baisse de 1% du S&P, le Nasdaq, une baisse de 3%. On est quand même légèrement en hausse là, pour le mois en cours, entre 1 et 2%. Et année à jour, le TSX fait relativement bien, là, 7,5% de rendement. Du côté américain, là, on est une petite hausse d'environ 1,5% sur les deux indices. On demeure en baisse par rapport au sommet. Là. Du côté américain, on n'a toujours pas rattrapé les sommets de la fin janvier. Évidemment, notre dollar canadien continue de bien faire. Puis ça, on va en parler avec notre invité. Mais c'était un peu la surprise là, de voir le dollar canadien se maintenir face au dollar américain malgré les enjeux géopolitiques qu'on a vus vers la fin de la semaine dernière. Aujourd'hui, on a la rencontre de la Réserve fédérale américaine qui va annoncer sa politique monétaire, entre autres les taux d'intérêt. En fait, on n'attend aucune annonce, on s'attend à ce qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, le marché va surveiller ce qu'on appelle les « dot plots ». Donc, les membres de la Réserve fédérale vont indiquer à où s'attendent-ils à avoir les taux d'intérêt à la fin de l'année. Donc, ils mettent sur un graphique un point pour indiquer où ils pensent que les taux seront. Et le marché porte beaucoup d'attention à des anticipations qui n'arrêtent pas de changer tout le temps de toute façon. Fait que, est-ce qu'ils devraient mettre autant d'importance? Pas sûr, mais ça a tendance à faire bouger les marchés. Et puis, on va aussi un peu se taper dans le dos au Québec. On a des entreprises qui performent bien. Donc, évidemment, on ne fait jamais de recommandations sur un podcast. Là, donc, on fait juste en parler parce que c'est une entreprise québécoise. Boralex a tenu une journée d'investisseurs cette semaine. Ils ont annoncé quand même des bonnes choses. Ils prévoient des croissances de 8 à 10 % du chiffre d'affaires pour les 5 prochaines années, là, par année pour les 5 prochaines années. Ils espèrent augmenter la production. Présentement, ils produisent 3,3 gigawatts d'électricité. Ils espèrent augmenter à 7 gigawatts en 2030. On parle de plus que doubler la production. Donc, comme quoi, on a besoin de plus d'énergie. Et on a une super belle entreprise au Québec qui fait ça. Donc, on voulait juste le mentionner. Avoir un petit souci nationaliste, la Saint-Jean s'en vient, alors parlons-en un petit peu.
Merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, comme tu as mentionné, nous avons invité un de nos collègues qu'on n'a jamais invité, donc c'est la première fois, pour répondre à quelques-unes de nos questions sur le contexte économique actuel. Hugo L'Italien est analyste financier, gestion de patrimoine Desjardins. Bonjour Hugo et merci d'avoir accepté notre invitation.
Hey, bonjour vous deux, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Donc en fait, Hugo, tu es le collègue à Jean-René qu'on a souvent sur le balado. Donc puisque c'est la première fois que tu es avec nous, est-ce que tu peux nous décrire rapidement un peu ton parcours et ensuite nous parler rapidement de ton rôle chez Desjardins?
Oui, bien sûr. En fait, ça fait pas loin de 12 ans que j'évolue au sein des valeurs mobilières, donc c'est un domaine que je connais assez bien, mais en tant qu'analyste financier, ça fait maintenant 4 ans que je collabore avec les deux stratèges en investissement du côté de gestion de patrimoine, dont Jean-René, que vous connaissez bien. Donc ensemble, on essaie de couvrir justement nos professionnels. Puis quand je dis couvrir, c'est quoi? C'est tout simplement distiller toute l'information économique et financière pour nos gens de terrain, pour les aider, eux, après, dans leur travail avec leurs membres et clients. Donc, un analyste financier, ça mange quoi en hiver? Écoutez, c'est assez simple, c'est trois choses. Je lis, j'écris et je parle de finances à longueur de journée. Donc, ça se résume à ça. Mon but, c'est toujours dans un concept de vulgarisation. On essaie de rendre ça assez digeste pour le commun des mortels. Et somme toute, tu sais, j'ai pas la prétention de savoir tout ce qui va se passer, mais on essaie d'amener un peu de la couleur sur les opportunités et risques sous différents scénarios. Et à travers ça, on sait que la finance, c'est pas noir ou blanc, donc d'où l'importance d'amener un petit peu de couleur. et on est là pour allumer des lumières auprès de nos gens. Donc, grossièrement, c'est un petit peu ça mon rôle.
Puis concrètement, bien, nous, on reçoit un petit article là, tous les matins de ta part. Des fois, tu animes aussi l'appel de 8h30, là, de l'appel du matin, pour nous aviser. Donc, merci pour ça, Hugo. Martin m'a fait remarquer, puis il l'a remarqué aussi précédemment, quelque chose la semaine dernière. L'Israël a frappé l'Iran jeudi en soirée, et nous avons vu le dollar américain rester stable et même légèrement baisser face au dollar canadien. Est-ce que le dollar américain a perdu son statut de valeur de refuge?
Oui, écoutez, c'est une excellente question parce que juste pour donner un petit peu de perspective aux gens, quand ça brasse d'un point de vue économique, boursier, géopolitique, le dollar américain a toujours été une valeur refuge pour les investisseurs. Et je vous dirais que depuis le début avril, il semblerait que ce statut-là s'est un petit peu terni. Donc, c'est important de disséquer quelques facteurs qui jouent en ce moment là-dessus. Je vous dirais qu'il y a deux facteurs aggravants plus récents et un peu plus structurel, donc je vous les aborde, là, puis je vais essayer de faire ça assez concis. Le premier, évidemment, c'est la guerre commerciale. Il semblerait que le sujet de l'heure, les tarifs, joue un rôle à ça. Donc, contre toute attente, quand on a M. Trump qui est rentré, qui a commencé sa présidence, au lieu d'être autant pro-business comme on avait fait la promotion, eh bien, on a décidé de divorcer le reste du monde d'un point de vue commercial. Donc, je m'explique, là, donc, après 20 années d'efforts de globalisation, donc ici, on essaye d'ouvrir les marchés et d'échanger ouvertement avec les partenaires à travers la planète. Eh bien, la Maison-Blanche a brusquement changé son fusil d'épaule, puis on a décidé de chambler justement cet échiquier mondial-là d'un point de vue commercial. Et on a créé ce qu'on appelle en ce moment une forme d'isolationnisme américain. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? Écoutez, on a commencé à tarifer tout ce qui bouge. Nos principaux alliés, nos grands compétiteurs, puis on est même commencé à tarifer des pauvres pingouins là, sur une île inhabitée en Antarctique, puis j'exagère même pas. Donc, on peut s'étendre là, sur les raisons du pourquoi on utilise les tarifs, mais le résultat, c'est qu'on se trouve dans une situation où les investisseurs sont moins chauds à l'idée d'acheter du dollar américain. On se dit, tu sais quoi, tant qu'à me faire crier des bêtises, à me faire taper sa tête par des tarifs, bien, je vais diversifier mon risque, je vais peut-être trouver d'autres opportunités dans d'autres devises, et donc on voit une diversification dehors du dollar américain. Donc ça, c'est probablement le plus gros facteur récemment. D'un autre côté, il y a le déficit budgétaire aux États-Unis qu'on parle beaucoup, là, donc on a une situation fiscale qui s'envenime graduellement, surtout avec un plan fiscal là, qui est sur le point de passer au Congrès. Donc on anticipe une détérioration de ce côté-là. Ça pèse sur le dollar américain. Et trois, je vous dirais qu'une tendance plus structurelle, on va reculer quelques années, on se rappelle le conflit russo-ukrainien qui est encore d'actualité d'ailleurs. Donc, ce que ça a amené, la Maison-Blanche est venue choquer un petit peu le marché parce qu'on a utilisé le dollar américain comme une arme. C'est pour la première fois, on est venu saisir des dollars américains qui appartenaient à la Russie. Et ça a été comme un son de cloche pour tous les autres pays. On a comme fait « ding, ding, ding ». Il y a un risque, si jamais j'entre en conflit avec les États-Unis, ils ont une mainmise, ils ont un accès à l'argent que j'ai, à mes dollars américains. Donc, de ce côté-là, on a vu une diversification graduelle du dollar américain vers d'autres actifs, dont l'or. Donc, ça explique également pourquoi l'or fait très bien depuis quelques mois et même sur 2 ans, je vous dirais. Donc, depuis le début avril, 2 épisodes de choc. On a eu, évidemment, le jour de la libération, quand on a annoncé les tarifs sur tout le monde. Les marchés ont culbuté et le roi de l'or, lui, a également chuté, a suivi à la baisse. Et plus récemment, comme Martin Guy disait en entrée de jeu, l'éclatement du conflit entre l'Israël et l'Iran et le dollar américain n'a pratiquement pas bougé. On se négocie toujours dans les niveaux en creux environ là, des 3 dernières années. Donc, c'est tous des facteurs qui, mis ensemble, font en sorte qu'en ce moment, et bien possiblement que le dollar américain a perdu un peu de sa valeur refuge qui était si convoitée par le passé. Est-ce que c'est temporairement? Est-ce que c'est structurel? J'ai pas la réponse, mais pendant ce temps-là, l'euro fait bien et le dollar canadien, lui, s'apprécie. Donc, c'est pas nécessairement parce que l'économie canadienne est encore plus vigoureuse, c'est plus de l'autre côté de la médaille, du côté américain, que ça se passe du côté de l'équation.
Puis tu l'as mentionné, je pense, dans ta liste de facteurs qui affectent le dollar américain, mais on voit réellement que la dette américaine est soudainement devenue une grosse inquiétude. On en parle beaucoup plus. Pourquoi maintenant?
Écoutez, pour être honnête avec vous, ce n'est pas une inquiétude qui date d'hier. Là. Ça fait 40 ans là, qu'on en parle et que c'est ramené à l'avant-scène de façon occasionnelle. Puis d'ailleurs, les annonciateurs de malheur de Bloc 40 ans ont toujours eu tort jusqu'à présent. Mais tu sais, vous connaissez l'histoire du garçon qui criait au loup. Les gens ont tendance à oublier, mais à la fin de l'histoire, il se fait manger. Donc, aujourd'hui, j'annonce pas la fin de la fin des États-Unis d'un point de vue fiscal, là, mais c'est juste pour vous dire que la situation elle a évolué. Pourquoi est-ce qu'on en parle un peu plus aujourd'hui? Eh bien, on a une dette qui est à 100, qui a évolué. On est à 130% du PIB. Donc, ça, c'est un ratio là, qu'on utilise du côté des économistes. Là. Mais tu sais, juste pour vous donner une idée de grandeur, à chaque année, on a un déficit d'environ 7-8% en ce moment du PIB. Ça veut dire qu'on ne génère pas assez de revenus pour ce qu'on consomme. Donc, on doit aller se financer, on doit augmenter notre dette. Et avec le gros projet de loi fiscale que M. Trump essaie de passer, qu'on a appelé le « Big and Beautiful Bill », donc c'est très original, mais ça vient envenimer ces perspectives-là parce que, grosso modo, on annonce plus de baisses d'impôts et on ne coupe pas assez dans les dépenses actuelles pour venir compenser ce coût-là. Donc, on se trouve dans une situation fiscale qui est un petit peu plus à risque, surtout considérant. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que oui, on doit financer cette dette-là, on doit l'emprunter. Puis les taux aujourd'hui, on n'est plus à des creux de la pandémie. Quand je regarde les taux américains, quand je regarde du 2 ans et plus, là, on est dans une fourchette de 4% et 5%. Donc juste pour vous donner une idée de grandeur là, du fardeau de la dette américaine en ce moment, 2024, ça a coûté plus cher d'intérêt au gouvernement pour financer la dette que toutes les dépenses militaires globales ensemble. Et on s'entend que l'armée américaine, c'est pas un petit poste de dépense en soi. Donc, le mix de plus de dettes avec des taux d'intérêt plus élevés, bien, c'est un cocktail qui donne un petit peu des sueurs froides en ce moment au marché. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu plus cette année.
Puis donc, dans ce contexte-là, on a vu là, sur le bulletin trimestriel, on recommandait de surpondérer le marché américain là, depuis fort longtemps. Puis là, le dernier, là, on était légèrement surpondéré. Bon, donc, est-ce qu'on devrait-tu éliminer les titres américains, réduire les titres américains? C'est quoi l'opinion là, du groupe conseil en portefeuille face aux titres américains?
Oui, c'est une bonne question également. Ça dépend toujours pour les gens à la maison là, qui on reçoit cette question-là. Puis souvent, le premier réflexe qu'on doit se demander, c'est quoi notre point de départ? Quand on a fini l'année 2024, on regardait les risques. Puis un des risques, c'est qu'on voyait tout le monde du même côté du bateau. Tout le monde était très surpondéré aux États-Unis. Puis ça, autant les investisseurs de détail que les investisseurs institutionnels. Donc, il y avait une certaine complaisance et on s'attendait également à ce que les États-Unis continuent à surperformer encore une fois en 2025. Donc, de ce côté-là, c'est quand on a un élastique qui est étiré, ça peut continuer d'être étiré jusqu'à temps qu'on ait un choc externe. Puis ce choc-là, on l'a eu évidemment avec l'arrivée de la guerre commerciale. Donc, de ce côté-là, pour répondre concrètement à ta question, Martin Guy, si on était surexposé au US, on ramène un peu plus notre pondération à égal. Si on était déjà sous-pondéré, bien, est-ce qu'on va encore plus sous-pondéré? Des fois, le réflexe des gens, c'est de succomber à l'émotion. Et de ce côté-là, c'est peut-être pas la bonne chose. Donc, juste pour le risque en ce moment qu'on rencontre beaucoup, c'est ça. C'est que ça fait 10 années que le marché américain a surperformé. D'où, là, on est habitué à ce que cette tendance-là continue. La première loi de Newton, c'est quoi? L'inertie. Donc, quand des gens sont habitués à quelque chose, on va continuer sur le même mouvement, sur le même momentum, jusqu'à temps qu'on se fasse prouver qu'on n'ait pas raison. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que l'approche de diversification est plus intéressante. Mais dans un contexte, en ce moment, qu'on voit des investisseurs plus ouverts à diversifier en dehors des États-Unis, puis d'ailleurs, depuis le début de l'année, les marchés internationaux vont bien, autant les pays développés que les marchés émergents. Donc, de ce côté-là, d'un point de vue gestion des risques, ça peut être un bon moment d'abaisser son exposition au marché américain. Puis quand on dit abaisser, là, c'est marginalement, donc c'est toujours en fonction de balises. Et est-ce qu'on sort complètement? Donc ça, j'ai la question souvent, là, est-ce qu'on sort complètement des actions américaines? Écoutez, la réponse claire, c'est non. c'est quand même le plus gros bastion boursier dans le monde. Faut pas sous-estimer les Américains également. C'est le berceau de l'innovation technologique des dernières années. On a des machines à imprimer de l'argent là, quand on regarde des grandes pointures technologiques. Donc, c'est beaucoup de qualité qu'on a dans ces entreprises-là. Mais plus important encore, c'est des entreprises. Quand je regarde le S&P 500, qui est l'indice fort américain, est-ce que c'est vraiment un indice américain? Parce que 40% de ses revenus qui sont générés à l'international. Donc, de ce côté-là, c'est un portefeuille qui est un peu plus nuancé. Du côté des Mag 7, donc les Magnifix 7, là, que probablement vos gens ont entendu parler dans les médias, c'est 55% de leurs revenus qui sont à l'extérieur. Donc, de dire que c'est simplement focusé sur les États-Unis, c'est faux. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de s'exposer aux marchés internationaux peut-être à meilleur prix en allant justement dans ces marchés internationaux-là qui ont été boudés pendant plusieurs années. Donc, on balise des convictions, on balise des excès. Puis ce qu'on aime dire, c'est si t'aimes ça, t'en mets plus. Si t'aimes pas ça, t'en mets moins, mais t'en mets. Parce que les convictions, ça coûte cher sur le rendement long terme.
Ouais, il faut laisser de l'espace à la probabilité que notre opinion soit erronée parce qu'on peut pas prédire la bourse de toute façon. On a vu, donc, on a parlé du conflit au Moyen-Orient qui s'envenime. Oui. Les clients sont toujours inquiets quand on parle de guerre. On associe guerre égale, la bourse va tomber, c'est sûr. Peux-tu nous donner quelques mots là-dessus?
Oui, ben écoute, tu sais, c'est avant tout là, quand on a une situation comme ça, il faut le voir. Le premier réflexe, c'est qu'on le voit comme un drame humain. Bien évidemment, de grande envergure, il y a des vies humaines qui sont perdues, donc moralement, c'est toujours un peu plus difficile. En tant qu'analyste, on doit regarder la situation plus froidement, donc mettre les émotions de côté. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Écoutez, rapidement, quand le conflit a éclaté, il y a de ça quelques jours, là, 6 jours environ, là, au moment d'enregistrer, les marchés n'ont pas trop réagi. Ça a été assez calme. Donc, les actions qui ont navigué entre gains et pertes, je pense que la première journée, les actions américaines ont perdu à peu près 1%. Puis, je vous dirais, perdre 1% cette année, c'était quasiment la norme. Donc, je vous dirais que c'est la roulette médiatique en ce moment qui fait bouger, qui va continuer probablement à faire bouger les marchés entre gains et pertes. Ce qui est un peu plus notable comme mouvement, c'est du côté du pétrole. Évidemment, c'est une région qui est assez une grande... l'Iran là, qui produit beaucoup de barils de pétrole et qui en amène sur le marché. Le baril qui a augmenté de 15% dans la nuit, que ça s'est assoupli un petit peu. Mais tu sais, depuis que le conflit a été initié, le baril a augmenté de 9%. On est passé d'un creux qu'on avait vu depuis la pandémie, qui est autour de 57-58$, on est à 75$ aujourd'hui. Donc oui, on a eu un bond. Mais si on recule à un an, 2 ans ou 5 ans, si je vous avais dit qu'en ce moment, il y avait un conflit ouvert entre Israël et l'Iran, le premier réflexe qu'on aurait, c'est de dire « Ah, le baril de pétrole doit être à 150-200$. On est à 75. » Donc, ça, c'est... Oui, il y a un certain risque géopolitique qui est intégré dans le marché, mais le marché demeure calme quand même. Et les indices boursiers mondiaux vont se négocier encore près des sommets. Donc, juste pour mettre les choses en perspective. Il y a toujours un risque à la baisse, évidemment. Là, donc là, on parle beaucoup, on se demande est-ce que les États-Unis vont rentrer dans le conflit. Ça pourrait faire changer les choses. J'ai pas de bulle de cristal, ça sert pas à grand-chose, fait que j'en tiens pas. Mais néanmoins, tu sais, ce qui est important quand on voit des choses comme ça, c'est souvent le premier mois après l'initiation d'un conflit que ça va être plus volatile. Puis après, ça a tendance à s'apaiser. On l'a vu avec le conflit russo-ukrainien. On l'a vu avec Israël et Hamas il y a 2 ans. Donc, encore une fois, c'est des drames humains très importants, mais d'un point de vue boursier, on perd cette sensibilité-là assez rapidement. Et j'en profite pour peut-être mettre... Tu sais, les obligations, on n'en a pas parlé beaucoup dans les dernières années parce que le marché allait tellement bien. Mais c'est ici que les obligations, la partie obligataire va faire son travail en portefeuille. Si jamais la situation se détériore, bien, les obligations vont contrebalancer les quelques pertes qu'on va avoir d'un point de vue des actions, puis vont venir soutenir le portefeuille. Donc, de ce côté-là, ça met en valeur l'allocation d'actifs. Puis aussi, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que la prudence excessive a aussi un coût d'opportunité, puis c'est un risque en soi. Quand on avait un scénario de récession qui était le consensus à la fin 2022, puis finalement, on a eu des marchés qui ont une séquence spectaculaire, mais il y a beaucoup de gens qui ont laissé d'argent sur la table parce qu'ils ont été trop sécuritaires. Fait qu'il faut jouer, il faut bien balancer, d'où l'importance d'avoir une équipe là, pour les appuyer comme vous deux. Là. Donc, c'est là que votre expertise vous la faites vraiment vivre. Donc, c'est super intéressant.
Oui, c'est super attrayant à la fin 22 des certificats de placement garantis à 5%, oui. Mais les bourses ont aligné 2 années de plus 20% par année. Mm-hmm. Fait que finalement, c'était pas si payant que ça, un CPG à 5% en rétrospect.
Bien, puis ça revient toujours à la même chose. Puis qu'on a tous les trois redit probablement plusieurs fois dans notre carrière. Il faut rester bien diversifié, pas d'excès de conviction et calme. Donc, merci beaucoup, Martin, et merci beaucoup, Hugo. Si vous avez des questions concernant notre discussion aujourd'hui, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de cela. Aussi, on est là pour vos besoins, vos questions et objectifs financiers personnels. Martin et moi allons prendre une pause pour les deux prochaines semaines parce que c'est des semaines écourtées dues à les fêtes nationales. Donc, communiquez avec nous. On est là, on est présent. On fait juste une pause pour le balado. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.